Aujourd'hui dans Reconversion, on oublie les groupes d'indie rock à chanteuses influencées par les 90s et on va pousser les potards du groove à 11 en abordant un groupe à l'héritage tentaculaire et qui reste pourtant assez méconnu du très grand public. Et dans un second temps, on verra que le succès de ce groupe a bien failli nous priver d'un des plus beaux disques sortis ces dernières années, beauté qu'on doit autant à sa musique qu'à son histoire. Une histoire qui tient du miracle pour un album qui a mis, accrochez-vous, 10 fois plus de temps à voir le jour que Chinese Democracy des Guns N' Roses. Oui, c'est possible. Allez, c'est parti, générique. Bonjour et bienvenue dans Reconversion, le podcast des meilleures reprises, pour un épisode un peu particulier. Un hors-série donc, puisqu'on ne va quasiment pas parler de reprises, mais ce sera un gros épisode qui sera consacré à la fois à un groupe, puis aussi et surtout, comme je vous l'ai dit, à un album quasi miraculeux. Alors oui, je sais, ça fait beaucoup de choses, si bien qu'au moment où je commence l'écriture de l'épisode, bah je me demande bien comment je vais m'y prendre pour aborder tout ça dans le bon ordre pour que ça reste cohérent et intéressant. On va donc faire ça en deux temps et de façon chronologique. D'abord, je vais vous parler d'un groupe qui a donné ses lettres de noblesse à la musique funk, dont le nom est un peu connu mais pas tant que ça au final. Et ensuite, on parlera du dit album miraculeux qui faillit ne jamais voir le jour, tout ça étant bien sûr étroitement lié, vous vous en doutez. Sachant qu'en plus, je vais un peu sortir de ma zone de confort en parlant d'un style de musique que je connais pas tant que ça d'un point de vue historique, mais je me dis que c'est bien aussi de changer de genre, et de mettre de côté pour l'instant le rock et ses dérivés, encore que, on verra que par moment, on n'en sera pas très loin. Avant d'ouvrir les hostilités, n'oubliez pas d'aller crier votre amour pour Reconversion sur toutes les applis dédiées, d'aller mettre les 5 étoiles et les commentaires qui vont bien. On est aujourd'hui à 72 commentaires sur Apple Podcast, et en bon psychorigide, j'aimerais bien arriver à un chiffre rond avant la fin de la saison, et tant qu'à faire, plutôt à 100 commentaires qu'à 80. Donc je compte sur vous pour parler du podcast à vos amis, votre famille, vos collègues de boulot ou toute personne dotée de deux oreilles. D'ailleurs, si vous demandez à ces personnes quelle est pour eux la référence en termes de musique funk, oui, je suis Jean-Michel Transition aujourd'hui, il y a de fortes chances pour qu'elles vous fassent la même réponse que j'aurais faite il y a quelques temps, James Brown, Sly and the Family Stone, Funkadelic ou Sinclair. Et vous l'aurez compris, il y a un nom qu'on ne cite pas, parce que bien moins connu que les noms cités précédemment, mais qui fait tout autant office de référence en matière de musique funk, un groupe qui nous vient tout droit de la Nouvelle-Orléans des années 70. Vous avez sans doute déjà entendu ce groove imparable et ce son ultra sec de batterie, un morceau du nom de CC Strut qui a été samplé des centaines de fois, et pas que dans des pubs de café ou de parfum, qu'on doit à quatre musiciens louisianais qui ont formé à la fin des années 60 le groupe The Meters. Je vous ai diffusé CC Strut alors non pas tant parce que c'est un morceau important dans la musique funk, mais parce que c'est la première piste du premier album des Meters, The Meters en 1969, et donc c'est un peu le début de notre histoire du jour. Alors oui, d'ailleurs il faudrait dire les The Meters plutôt que les Meters quand on parle du groupe, mais mon accent, le TH, la langue entre les dents, tout ça, je vais me contenter d'aller au plus simple. Les Meters donc, même s'il y a eu foultitude de moutures et de pièces plus ou moins rapportées au long de leur carrière, c'est avant tout le groupe de 4 musiciens issus de la Nouvelle-Orléans, ça je vous l'ai dit, le batteur Joseph Zigabou Modéliste, un blaze à faire des maquettes de Jésus, le bassiste George Porter Jr., le guitariste Leo Nocentelli, et enfin Art Neville au clavier. Art Neville, qui se trouve être le frère de Aaron Neville, chanteur et musicien américain connu entre autres pour le tube Tell It Like It Is en 1966. Si vous avez grandi comme moi dans les années 90, vous devez connaître la reprise par Don Johnson, mais c'est pas le sujet du jour. Donc modélistes, Porter Jr., Nocentelli et Neville sont à l'origine des Meters. Et comme quoi c'est bien foutu, le fameux album miraculeux dont je parle depuis tout à l'heure a un lien avec un de ces gars-là. Nos 4 Meters ont l'habitude de jouer ensemble depuis le milieu des années 60 en se produisant dans tous les clubs de la Nouvelle-Orléans, improvisant autour des styles qu'ils affectionnent, rock, jazz et rhythm and blues. Modéliste, Nocentelli, Porter Jr. et Neville sont tous d'extraordinaires musiciens, et le nom du groupe, The Meters, les mesures donc, au sens solfégique du terme, mot qui n'existe pas mais vous aurez compris l'idée, eh ben leur correspond parfaitement quand on connaît leur sens du rythme et leur faculté à jammer ensemble. Et ce premier album de 1969 est directement inspiré par ces sessions de jam dans les clubs de la ville. D'ailleurs, il faudra attendre le troisième album pour trouver la trace d'une ligne de chant, et encore sur 2 ou 3 morceaux seulement. Ce premier album en 1969 a un vrai retentissement aux États-Unis. Alors déjà, il est produit par une légende du rhythm and blues américain, Allen Toussaint, souvenez-vous de son nom, musicien, arrangeur, producteur, propriétaire de studio, créateur du label Sansu Records et figure iconique de la musique noire américaine. À titre d'illustration, c'est lui qui a produit Lady Marmalade en 1974, où ce sont d'ailleurs les membres des Meters qui accompagnent le label. C'est aussi Allen Toussaint qui écrira la chanson Yes We Can pour la campagne d'Obama en 2008, et c'est donc un personnage central quant à la suite de notre histoire. Certes, les Meters sont donc bien entourés, mais ils ont aussi beaucoup de talent, ça je vous l'ai déjà dit, et ce fameux single Sissy Strut va s'écouler à plus de 200 000 exemplaires en 15 jours. Sissy Strut, c'est un classique de la musique funk américaine qui sera samplé plus tard par N.W.A., Uncle, Timbaland, Public Enemy ou A Tribe Called Quest. Voilà qui donne déjà une première idée de l'influence du quatuor américain. Et ce premier album va être le point de départ de leur carrière bien sûr, mais aussi celui de toute la scène funk de la Nouvelle-Orléans. Compte tenu de leur ville d'origine, on parle de funk du bayou, de funk terreux et organique. Alors c'est sans doute un peu des conneries de journalistes, mais c'est avant tout aussi pour les dissocier des autres grands noms du genre, Parliament, Funkadelic et consorts. Le son des Meters, c'est une combinaison de grooves mélodiques serrés, de rythmes syncopés, accompagnés de riffs de guitare ou de clavier assez acérés, comme disaient les Last Ketchup. Démonstration avec mon morceau favori, que vous connaissez peut-être si vous avez joué à GTA 4. We'll be right back. on est en 1974, c'est le morceau Just Kissed My Baby sur l'extraordinaire Rejuvenation, cinquième album des Meters, à mon sens le meilleur disque du groupe, voire la rédaction s'engage, le meilleur album de tout le funk américain. Ce morceau complètement dingue et addictif a été notamment repris par Maceo Parker, légende du funk et accessoirement ancien saxophoniste de James Brown. On trouve aussi plus récemment une version sur YouTube avec ce que j'appelle les Avengers du funk rock, des membres de Fishbone, Corey Henry, claviériste des Snarky Puppy, hein, dont on avait parlé dans Super Cover Battle, ainsi que Flea à la basse et John Frusciante à la guitare. Je vous diffuserai la vidéo sur les réseaux sociaux. Les Meters ont d'ailleurs été une grosse influence pour les Red Hot, puisque ces derniers ont repris leur chanson Africa, devenue Hollywood, sur Freaky Styley, leur deuxième album en 85, produit par George Clinton, qui s'y connaît en matière de funk, et il se pourrait qu'on reparle de lui un jour. Rejuvenation est le deuxième disque du groupe entièrement chanté, c'est Art Neville qui s'y colle, et c'est peut-être le disque le plus rock de toute leur discographie. J'ai presque envie de dire que c'est un disque somme, dans le sens où c'est à la fois un disque de musicien, avec des parties musicales assez dingues, c'est aussi un disque qui fait le pont entre plein de styles, funk, rock, voire disco par moment, et le terme disco dans le cas présent n'est pas du tout péjoratif. On va faire aussi un petit point pochette, puisque celle de Rejuvenation est l'archétype du visuel disco-funk 70s. On y voit une femme afro-américaine assise sur un canapé blanc éclatant et entourée de plein de vinyles. La photo étant insérée dans un cadre rose flashy, un peu kitsch, du meilleur effet, et je tâcherai là aussi de vous la poster sur les différents réseaux sociaux. Rejuvenation, en tout cas, je pense que c'est la meilleure porte d'entrée pour découvrir le funk américain des années 70. Les Meters sont moins fêlés que les Parliament ou Funkadelic, moins chargés aussi, et dans tous les sens du terme, et il y a finalement assez peu de cuivre chez les Meters, ce qui en fait, je trouve, une véritable passerelle entre rhythm and blues, funk, rock ou disco. Il y a de vrais tubes sur cet album, ultra mélodiques, avec de super refrains bien fédérateurs, et avec toujours ce groove qui claque impeccablement. Écoutez-moi cette section rythmique basse-batterie sur Watcha Say. Le milieu des années 70, c'est vraiment l'âge d'or du groupe, avec l'enchaînement de Rejuvenation, vous l'aurez compris je pense, mon disque préféré, et Fire on the Bayou dès 1975, que je vous recommande chaudement aussi, même s'il n'a pas à mon avis de tube de la trempe de Just Kiss My Baby ou Watcha Say. C'est après ces disques-là qu'ils seront en tout cas invités par Paul McCartney, qui les fait jouer pour la fête célébrant la sortie de son album Venus and Mars. Une release party où sont présents Cher, Joni Mitchell, Michael Jackson et Mick Jagger, qui va être tellement impressionné par la prestation live du groupe qu'il va les engager pour faire la première partie des Stones en 75-76. The Matter, c'est un groupe incroyablement sous-estimé par le très grand public, même à cette période-là de leur carrière, qui correspond à leur apogée, et où les Rolling Stones sont pourtant unanimes, ils sont le meilleur groupe américain en activité. Après tout ça, le groupe est un peu difficile à suivre. Il y aura certes deux nouveaux albums en 75 et 77, ce qui pousse à 8 le nombre de disques sortis en 8 ans, ce qui est quand même pas mal. Mais il n'est toujours pas question de l'album miraculeux, souvenez-vous, dont je vous parle depuis le début. On va d'abord assister pendant 30 ans à diverses tentatives de continuer à faire vivre le mythe Matters, et pas forcément toujours de la bonne façon. Pour faire simple, attention, accrochez-vous, parce qu'on est entre l'arbre généalogique des Gypsy Kings et un Camoulox plus vrai que nature. Donc après un hiatus d'une dizaine d'années, Art Neville, George Porter Jr. et Leo Nocentelli montent les Funky Matters en 89, mais Nocentelli part en 94, remplacé par Brian Stolz, un ancien du premier groupe des frères Neville. En 2000, Brian Stolz s'en va à son tour, remplacé par Ian Neville, le neveu des frères Neville, mais il va ensuite être re-remplacé par Brian Stolz en 2011. Pendant ce temps-là, puisque c'est pas fini, Nocentelli travaille sur une troisième mouture du groupe, The Matter Men, qu'il monte en 2012 avec deux membres fondateurs des Matters, Zigaboo Modelist et George Porter Jr., qui s'était lui-même barré des Funky Matters dans un premier temps. Arrive 2017, les Funky Matters, donc la première vraie faction du groupe original, part en tournée et joue évidemment des chansons des Matters. Seulement les Matters, les vrais, ont été reformés en parallèle par George Porter Jr., Modelist et Nocentelli, et qui ont donc abandonné le nom des Mattermen, mais pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté avec les Funky Matters, bah ils se font renommer The Original Matters. Vous suivez toujours? Et bah vu que c'est passé le bordel, le guitariste Leo Nocentelli joue également avec son propre groupe, qui ne s'appelle pas le Leo Nocentelli Band, ça serait trop simple, mais comme il joue souvent des titres des Matters, et bah il va l'appeler The Matters Experience. Pas simple de s'y retrouver, et très honnêtement, j'ai pas cherché à plus comprendre les diverses ramifications données au groupe original. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les Matters ont été une influence sur plusieurs générations sans qu'ils aient forcément une renommée dingue auprès du très grand public. Les Matters, c'est un peu le groupe préféré de tes groupes préférés, et comme on l'a vu précédemment, les Red Hot s'en sont inspirés, des artistes comme Jaco Pastorius, Primus, Grateful Dead les ont repris, et des tas de formations de hip-hop les ont samplés, de LL Cool J à Queen Latifah, Run DMC, en passant par Ice Cube ou Cypress Hill. Et j'ai lu une formule qui résume bien tout ça, les Matters sont les rois du funk, une renommée sans la fortune. Alors vous allez me dire, quel rapport avec le fantastique album qui tient du miracle dont je vous parle depuis le début? Eh bien en fait c'est assez simple. Il y a un des musiciens des Matters originaux qui, lorsqu'il n'était pas avec les Matters, aimait écouter des styles très différents du funk chaud et clinquant de son groupe. Durant la période faste des Matters, dans les années 70 donc, dès qu'il le pouvait, il allait s'isoler pour composer dans un style diamétralement opposé. Quelques sessions d'enregistrement sont même bouclées, toujours du côté de la Nouvelle-Orléans. Ce sont ces sessions-là, au cœur des années 70, qui vont finir sur l'album dont je vous parle depuis le début. Un disque à la destinée à peine croyable, resté au fond d'une boîte pendant près de 50 ans, et qui doit son salut au simple fait d'avoir été positionné suffisamment en hauteur sur une étagère dans un studio, studio localisé à la Nouvelle-Orléans, et dont 75% des bandes qui y sont stockées seront détruites par l'ouragan Katrina en 2005. C'est l'histoire que je vous propose de découvrir dans le prochain épisode qui arrivera très vite, chaque chose en son temps. Merci en tout cas pour votre écoute, merci Blue Monday pour la relecture, je vous laisse avec People Say, le titre d'ouverture de Rejuvenation, où on retrouve ce petit break que j'utilise depuis tout à l'heure en virgule sonore. We'll be right back. Bon, comme j'aime bien de temps en temps, voire dans chaque épisode, laisser un petit ghost track, je vous diffuse la version de Just Kiss My Baby dont je vous parlais tout à l'heure avec les Avengers du funk rock. Donc John Frusciante, Flea, Corey Henry des Snarky Puppy et des membres de Fishbone. C'est très court, la qualité audio est pas dingue, mais je trouve que ça dégouline de groove. Et en plus, on a un très bon solo de John Frusciante et ça donne aussi une bonne idée de ce qu'est la musique des Meters. Allez, cette fois-ci, c'est la fin. Bonne écoute et à très vite. Salut. Baby, yeah, and I just kissed my baby.